What for?
I'm trying to think.
C'est parti.
C'est parti. Bonsoir. Goedenavond, beste kijkers. On vous avait promis de devenir un petit peu plus adulte. On a dit qu'on allait proposer des trucs un petit peu plus épais que juste les albums qu'on aime bien. Même si on aime vraiment, vraiment bien vous arroser de notre bon goût. Du contenu. Du contenu, donc. Du contenu de qualité.
Ça change.
Bon, ça, il faudra voir, hein, la qualité. On ne va pas vendre la peau de l'ours, etc., etc. Alors, on a réfléchi, on a fait des réunions, on a fait du tempêtage cérébral, du brainstorming pour Frédéric.
J'adore l'anglais.
On a bu plein de bières, rien que pour trouver des sujets super intéressants. Alors, tous ces sujets passionnants, on ne va pas tous les enregistrer. Certains deviendront des articles, certains seront tus à jamais. Le grand couvercle de la honte, les engloutissant dans un silence salvateur. Ce soir, on va vous parler des métiers de la musique. Des métiers tout au début de tout. Au Big Bang de la création musicale. À savoir les artistes, les groupes, les salles, les festivals, les centres culturels, les labels, les managers, les tourneurs, les bookers, les maisons d'artistes, les réseaux. On va faire le tour de la question. Alors je vous entends déjà. À 5, juste pour présenter un album, ça nous donne des épisodes de 5 heures, alors qu'on est obligé de saucissonner en chapitres, pour rendre ça un tout petit peu digeste. Alors oui, on a prévu le coup, et on va faire ça en deux fois. On va pas faire tout en même temps. Alors ce soir, on va discuter avec des artistes. Un président directeur général de centre culturel, un grand manitou de plateforme culturelle, un ministre de label, et des artistes. Je l'ai déjà dit, des artistes. Vu qu'on est en radio, et que les gens voient pas nos bonnes têtes de vainqueurs, chers invités, je vais vous demander de nous donner un titre de morceau pour que les auditeurs chéris puissent se faire une petite idée de qui vous êtes en vrai, dans les méandres les plus sombres de votre personnalité. Avec un peu de chance, on en passera quelques-uns. Bonjour Christophe Dantine, de Chaustard, du Centre culturel de Marchin, récemment rené de ses cendres, sous le nom de Oyou.
Oui, il n'est pas décédé. Hein.
Non, mais il a quand même rené. Mmh.
Enfin, il a peut-être grandi.
J'espère.
Il a élargi.
Et donc, le morceau que tu as choisi, j'ai pris le premier des deux que tu m'as envoyé.
C'est Mogwai.
C'est Mogwai.
Mogwai, Glasgow, Mega Snake.
Exact. Bonjour Sébastien Von Landau, sorcier dans The K, dans Wyatt E, dans Cocaine Peace, et membre de Jaune Orange.
On dirait les intros de cette émission qu'il y avait sur France 3 en deuxième partie soirée où les CV des invités faisaient deux longueurs de bras là, tu vois. Tu te rappelles de cette émission, c'était présenté par Frédéric Taddeï.
Pour les vieux, émission pour les vieux.
Oui, mais bon, moi, ouais, bah, malgré bon, mon air, je suis le seul qui n'est pas chauve derrière cette table.
Je suis pas chauve.
Mi-chauve.
Ouais, c'est la radio, ils ne sauront jamais.
Futur chauve.
Ça va et toi?
Ça va bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu as choisi comme morceau?
Je pense que j'ai choisi un morceau du groupe Patriarchy qui s'appelle Sweet Piece of Meat et il s'agit d'un remix de Xavier Stanford.
Voilà, c'est magnifique. Bonjour Max.
Bonjour.
Tu es le démon de Demon Snip et tu es aussi cascadeur chez Jaune Orange.
Oui, ça te résume bien, non?
Plus ou moins, ça va, il y a d'autres côtés aussi.
Et tu as choisi quel morceau?
J'ai choisi le morceau Drain Counter de Lil Ugly Mane.
Cool. Bonjour JF, monsieur Microfestival, monsieur Cultura et Microfestival. C'est pas toujours Microfestival.
Bonjour.
Et t'as choisi quoi comme morceau?
Je suis toujours dans le petit nuage de Cure et donc From the Edge of the Deep Green Sea parce que c'était trop bien hier.
Ben oui, il paraît que c'était fort fort bien.
Avant-gardiste.
Bonjour Yannick.
Ah, moi je suis un vieux réac et je t'emmerde.
Et Yannick, c'est monsieur Jaune Orange, Yannick.
Maintenant, oui. Ouais.
Et t'as choisi quoi comme morceau?
Un groupe qui s'appelle Glass Beam.
Faut que tu parles vraiment plus bien dans le micro.
C'est Glass Beam, c'est le titre, c'est Kong.
Ok, cool.
Et on est à Porto.
pourtant.
Ouais, on enregistre. Et on voudrait aussi dire bonjour au Cultura qui nous accueille
qui
aujourd'hui
nous accueille.
Pour enregistrer cette magnifique émission. Merci JF pour votre accueil.
Mais de rien de la part de tout le Cultura parce qu'il y a plein d'énergie qui ont permis cette rencontre.
Ouais, c'est super cool.
Sébastien en a déjà parlé. Oui, les intros sont longues, c'est Kant, c'est sa vie, tout est long chez lui. On commencerait pas peut-être à parler de
un moment si on va
de ce fameux dossier.
Ouais.
Donc on a appelé Music Makers. C'est bien ça.
C'est ça.
Et donc on va commencer en parlant des artistes peut-être.
C'est eux qui font le truc, ouais.
C'est quand même la base, quoi. Ça. Sans eux, il y a pas grand chose autour.
Ouais.
Ouais, bon, donc du coup, Georges, moi je suis là juste pour assurer la clownerie de la soirée et le standard téléphonique en l'occurrence.
Et le standard téléphonique.
Et donc du coup, par rapport à la préparation de cette émission, j'ai reçu un fax ce matin de Marcel Dormouchan qui demande pourquoi Mario de la Starac ne fait pas partie du panel d'invités.
On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il devrait être là en fait. On est désolé.
Il avait je pense qu'il avait un gala à Outziplou.
Bien.
Bref, les groupes, les musiciens, les performers, comme
exactement.
On dit,
toute première question. Est-ce.
Ah, oui, à nouveau, déjà une deuxième question.
Pardon.
Un tweet de Micklin ici de Strepa qui demande s'il faut succès pour réussir en tant qu'artiste.
Qui veut répondre? Sébastien a l'air inspiré.
Ça va être long, hein. Vous avez prévenu.
Je savais que cette soirée allait tourner à la soirée de couilles.
Mais pas du tout.
On avait prévenu. Les artistes en général, Max, Seb et même Christophe en fait, et Christophe aussi, t'as été membre de Showstar. C'est quoi le déclic? C'est quoi qui se dit à un moment? C'est quoi qui vous fait dire, au-delà d'apprendre la musique, de savoir jouer des morceaux de musique, etc., de vous dire, moi je vais faire de la musique, je vais fabriquer
là,
un
tout
truc.
Je pense que personne ici n'a appris. Enfin, j'ai pas. Moi, en tout cas, j'ai pas appris. J'ai fait, voilà.
Ouais, mais donc, d'une certaine manière, autodidacte, et parce que tu faisais, t'as appris, d'une manière.
Je sais pas, pour l'argent.
Toi moi, j'avais tout un tas de copains à qui je traînais, qui faisaient que ça. Donc, si vous voulez être copain avec eux, il faut commencer par ça.
c'est comme
ça que j'ai commencé.
C'est pour te faire des amis, en fait.
Ouais. Et puis, j'ai continué pour voyager.
T'aurais pu juste fumer des clopes.
J'allais dire, t'aurais pu fumer aussi.
Ouais, mais j'ai gagné 10 ans de vie.
Ouais, quelle vie. Ouais.
Moi, perso, de mon côté, c'est plus parce que j'aime bien faire de la musique. C'est un peu gênant à dire comme ça. Mais voilà.
Faut pas être gêné, hein. Je trouve vraiment. Faut absolument pas être gêné.
Et par exemple, comment est-ce que t'as commencé à faire de la musique?
Je sais pas, mon frère, il m'amenait toujours voir des groupes. Et du coup, au final, je voulais être ces groupes et ça m'a mené ici.
Il aurait pu t'emmener faire du motocross, t'aurais fait du motocross.
Non, je pense pas. Il y a quand même un truc artistique.
Remonte sur la moto.
Ne freine pas. Debout.
C'est un investissement quand même, d'en arriver à ce niveau-là, au niveau du temps, des relations familiales. Il y a des concessions que vous avez dû faire à un moment?
Non, pas particulièrement. J'ai toujours juste, fait de la musique de mon côté. Et un jour, je me suis juste dit, il faut peut-être montrer à d'autres gens.
Ok. Comment on fait pour trouver un bassiste, un batteur quand on est... C'est ça le truc en fait.
Comment est-ce qu'on monte en groupe?
Vous retrouvez dans votre chambre à faire de la musique. Seb, toi tu disais que tu étais entouré de gens en fait, qui faisaient de la musique.
Ouais, moi c'est un groupe de filles, de 4 nanas.
Ah ok.
Qui s'appelait Nowhere à l'époque. Et qui m'ont demandé de chanter avec elles. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait mon premier concert après ma première répète. Je fréquentais l'atelier Rock à Warren, tu vois. Et donc j'ai commencé dans un groupe avec 4 nanas qui faisaient de la musique et qui n'avaient pas de chanteur. Donc je suis un peu arrivé comme un cheveu dans la soupe, tu vois.
Et tu t'es senti comment le premier concert?
Avant, confiant.
Après?
Dépité.
Et c'est marrant ce groupe de 4 nanas avec un chanteur, parce qu'en général, tous les groupes qu'on va passer, c'est des groupes avec 4 chanteuses, 4 guitaristes, 4 musiciens et une chanteuse. Et ici, c'est un peu l'inverse, c'est amusant. Hein.
J'ai fait tout à l'envers. Donc,
Comme quoi ?
Comme quoi, effectivement. Et je pense que mon dernier concert avec elle, c'était dans la salle ici en dessous, quand ça s'appelait encore Autour du Cirque.
Ah, ouf,
t'imagines ?
Ah, ouais.
Ouais, ouais, on parle de la préhistoire.
Ouais, ouais.
Néolithique.
Et Christophe, alors, lui ?
Moi, j'étais DJ. Je faisais des soirées rock du côté de Wii.
Donc, du coup, Bobby, ça mène parfois quelque part.
Oui, hein. Parfois, ça,
accroche-toi, ouais. Accroche-toi.
Et puis, ben voilà, c'est des copains de Wii qui faisaient un groupe et il y avait. Ils se sont dit, ben lui, il s'y connaît un peu en musique, il pourra faire chanteur. Ben voilà, effectivement, je m'y connais un peu en musique et de chanteur, ça c'est moins évident, mais ça a commencé comme ça en tout cas, mais plus par des connades qu'autre chose, je pense. Enfin, j'ai jamais pris ça au sérieux, en tout cas au début. Après, c'est autre chose. Quand il y a des choses qui se passent, et que alors là, on réfléchit, et là, c'est là que ça commence à devenir difficile, c'est quand on réfléchit trop. Voilà. C'est plus gai, je trouve, quand on ne réfléchit pas trop et qu'on se laisse porter par le bazar. Alors, que ça marche ou ça marche pas, parfois ça prend beaucoup de temps, parfois on se plante, mais peu importe en fait. Les chemins de chacun, ils sont ce qu'ils sont. Moi, c'était mon chemin comme ça, et je l'ai suivi avec les gens qui m'ont embarqué dans l'histoire, puis qui ont changé au fil du temps, et puis voilà.
Ok.
C'est très sérieux du coup.
Et à quel moment Non, mais c'est attention. Mais à quel moment on arrête de se laisser porter finalement et qu'on doit se mettre à réfléchir ? C'est quoi le moment clé en fait où
À réfléchir.
Ben oui.
Sérieusement.
Tu disais à un moment il faut se poser, il faut se mettre à réfléchir et que ça coupe quelque chose, mais à quel moment justement ?
C'est quand il y a un encadrement plus en guillemets professionnel qui arrive, ce qui était moins quand on a commencé, il n'y avait pas. Ça fait vraiment le gars qui était encore là depuis très très longtemps, mais il n'y avait pas toutes les structures qu'on connaît maintenant. Et, évidemment, il n'y avait pas Jaune Orange, on pourrait raconter tout, on pourrait faire un podcast rien que sur cette époque de la musique belge.
On va refaire un double.
On va revenir quelques fois. Hein.
Parce que c'est il y a de quoi raconter, mais nous dans notre cas, c'est quand ça a commencé à devenir un peu. Des passages radio, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Mais c'est propre à nous.
Oui, oui, mais...
Chaque groupe, à mon avis, a son moment différent.
Sébastien, par exemple, tu as eu plusieurs groupes, toi, en plus. Tu as plusieurs groupes.
Ça a commencé à devenir sérieux, ou là où je me suis impliqué différemment, à partir du moment où je savais pas quoi faire d'autre dans la vie, en fait. j'ai un peu fait des études pour m'occuper, et puis... En me disant que ça me donnerait du temps pour faire ça, sur le côté. Puis, dans ma famille, ils sont tous un peu musiciens aussi. Tu vois, j'ai des gens qui font du saxophone, la flûte, des guitaristes. Mon arrière-grand-père, c'est un ancien violoniste à l'opéra, ici à Liège. Typique juif ashkénaze qui jouait du violon, donc le stéréotype complet.
J'allais dire,
complet.
C'est bien, ouais, c'est le tableau là. Ouais.
Je vais pas parler d'héritage transgénérationnel ou ce genre de choses, mais il y a quand même
y a un truc,
y a une fibre, quoi, tu vois. Et puis depuis tout petit en présence du
de la musique,
médium musique, et puis même si tu vois, j'ai jamais eu de cours de solfège ou ce genre de choses, j'avais vaguement un prof de guitare qui m'apprenait. Comment faire, je regardais les copains et puis voilà, j'ai pas du tout de formation. J'ai commencé à y croire à partir du moment où j'ai commencé à en vivre, entre guillemets, tu vois. En vivre encore, qu'est-ce que ça veut dire en vivre aujourd'hui?
Oui, tout est dans le entre guillemets.
Ouais.
On a une technique ici, on fait une espèce de petite pause de dire les choses entre guillemets, comme ça on
c'est très visuel, c'est
ouais, c'est ça. Ouais. Alors le truc c'est qu'à chaque fois on fait les petites oreilles de lapin
pour les auditeurs,
ouais, pour les auditeurs.
Tu l'as fait tout à l'heure, mais
pas une GoPro. Pas une GoPro,
un Twitch.
il faudrait une mais caméra 360.
Ça donnerait une dimension de ouf, quoi.
tu penses pas à Yannick qui est musicien, qui lui a commencé en église.
Ah, raconte nous ça.
Ah.
Ah bah oui,
très 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 bon. Mais ouais, moi, quand j'étais petit, j'ai fait de l'orgue pendant 8 ans. Et j'ai eu des cours d'orgue. Et donc, à un moment donné, Enfin, mes parents étaient, enfin, ils sont toujours cathos. Et à un moment, il n'y avait pas d'organiste à l'église, donc j'ai joué à la messe, quoi. Donc voilà, j'ai joué des mariages et trucs comme ça. Mes premiers concerts, c'était les mariages.
Les petits organistes à la gueule de bois.
J'avais pas encore la gueule de bois et tout, j'étais trop petit. J'étais un enfant. Et je trouvais quand même ça marrant. Même si c'est pas. Enfin,
bref. Et tu t'es pas dit c'est un traquenard, enfant dans une église catholique à jouer de l'orgue?
Tout seul avec une personne.
Non, en fait, j'étais plutôt consentant. Je trouvais ça. J'ai toujours été. C'était marrant, je voulais bien. Il y avait plein de gens et tout. Franchement, après, là, j'ai joué des concerts adultes. Il y avait plus de monde au mariage qu'au concert adulte que j'ai. C'était moi aussi mal payé, mais voilà.
Et qu'est-ce qui fait justement basculer de cette espèce de monde un petit peu quand même obscur du catholicisme au monde quand même relativement obscur du rock?
Il est toujours dans le catholicisme.
Est-ce que tu joues encore de l'orgue?
Ouais, j'en ai racheté un, mais pas le même genre, mais ouais, j'ai un orgue chez moi, pas un orgue d'église totalement, mais donc ouais, j'en joue toujours. C'est pas basculé, en gros, j'habite à la campagne. La campagne, tu t'ennuies, donc en fait tu prends ce qu'il y a, quoi. Je veux dire, j'ai pas choisi de faire de l'orgue, franchement, il y en a pas chez moi, donc j'aurais bien préféré faire autre chose. Donc à partir du moment où je suis arrivé en ville, j'ai changé de vie, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et donc on bascule pas, on attend juste que ça arrive, quoi, qu'on puisse partir. Et ouais.
Ok.
Le plus soi. Sur le côté rock des villes, rock des champs, c'est pas la même expérience. Pour le déterminisme, il faut se rassurer, moi mon père était pâtissier, mon grand-père boulanger, donc...
Je viens des bois.
Voilà. T'as passé une carrière à faire des pains.
Waouh.
Je m'en vais, salut.
Vous tournez à l'étranger avec vos groupes, je le sais bien, je vous regarde un petit peu sur Facebook. C'est possible de vivre financièrement du monde musical en Fédération Wallonie-Bruxelles ou même en Belgique de manière un peu plus large? C'est pas grand, la Belgique.
Je te laisse aller, hein, Christophe. C'est pour toi cette question.
Elle est pour tous.
Encore un autre podcast. Il n'y a pas de réponse à ça, je pense. Oui et non. Certains ont pu en vivre à un moment donné, je sais pas, faire une carrière, c'est quoi? Est-ce qu'il faut, voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas de réponse à cette question.
Non, c'est plus complexe que oui ou non.
Ok.
Déjà, il y a tout cet aspect statut d'artiste qui moi, enfin, c'était très loin au début, il a fallu ramer, c'est déjà toujours pas beaucoup, beaucoup mieux, j'ai l'impression. Il y a des avancées, mais on est encore loin du compte, je pense. Et ça, par contre, c'est un combat, je pense qu'il faut... Ça, par contre, il faut continuer la lutte. Ça me paraît très important, parce qu'on vient de loin. Mais c'est pas parce qu'on tourne à l'étranger qu'on en vit, nécessairement. On peut aussi en vivre en tournant, ou en jouant, ou en faisant... Maintenant, il y a d'autres pistes. Il y a les synchros, il y a mettre sa musique dans une pub. Ben voilà, ce qui n'existait pas avant. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres pistes, peut-être. Mais en vivre... Je sais pas. Quelqu'un a la réponse?
En survivre.
Peut-être, voilà.
Sans
être misérabiliste en
non.
disant...
Juste une réalité, quoi. C'est
oui,
juste
une
réalité.
Qui est,
moi, sans statut, je pourrais pas ne faire que ça, évidemment. C'est parce que je cumule plusieurs vies, au final, dans les groupes, chez Jaune Orange. C'est toujours la débrouille aussi. Maintenant, tu vois, je fais pas de la pop music non plus, tu vois, je passe pas à la radio.
Non,
je sais pas. Enfin, dans les vraies radios, je veux dire.
Ça n'existe plus, les radios.
Il n'y a plus personne qui écoute, tout le monde est sur OnlyFans maintenant.
Tu as un OnlyFans? Non, on en parlera après.
Ça fera l'objet d'un autre
podcast.
Tu vas nous faire des cartes de membres. On viendra avec un tampon, la 10e gratuite. Et non, être musicien, ça a mille facettes. Et je pense. Et qui vit de sa musique en Fédération Wallonie Bruxelles? J'en sais rien en fait. Il y a peut-être des groupes, il y a peut-être
Stromae.
Oui, Stromae. C'est vrai.
Et Angèle, à mon avis, ça va.
Et Angèle aussi, et peut-être.
Camarero, Georges, ces mecs-là, ils font suffisamment de.
Faites du hip-hop.
Il y en a, mais. En fait, tourner à l'étranger, ça veut pas dire vivre de sa musique. Il y a plein de mecs qui tournent à l'étranger, qui ont un boulot sur le côté, qui prennent des jours de congé pour aller faire une tournée de 6-7 jours avec leur groupe. Et tu disais que tu faisais pas de la pop, et à la fois je crois que parfois faire de la pop c'est encore plus compliqué de réussir de la pop que de réussir dans une niche. Donc en fait, c'est tellement éclaté, comme il y a tellement de trucs différents, de situations différentes dans la musique ici en Belgique, pour parler de ce qu'on connaît. Quoi. En fait, les gens qui arrivent à en vivre, c'est les gens qui arrivent à faire. Avoir un boulot et tourner, c'est vivre quand même de la musique, c'est arriver à faire ce qu'on aime, et c'est déjà ça, c'est déjà super en fait.
C'est vrai.
Il a déjà fallu faire comprendre aux gens que faire de la musique, c'est un boulot.
Ouais,
oui, dans mes questions, il y a. Tu n'avais pas prévu de réussir dans la vie et tu ne trouverais pas un vrai métier. mais voilà, vous avez plus ou moins l'air d'y répondre quand même de manière directe ou indirecte. Comment est-ce qu'on, à l'heure actuelle, avec le streaming et ce genre de conneries, comment est-ce qu'on gagne encore de l'argent avec de la musique? C'est quoi? C'est les lives? C'est le merchandising?
C'est tout.
Les 12 centimes par an de Spotify que vous récupérez.
C'est l'accumulation.
C'est la combine de tout.
C'est d'aller manger à tous les râteliers. Quoi. C'est de faire du stream, un peu de merchandising, un peu de concert. Si tu as l'occasion de faire une synchronisation dans un film ou ce genre de choses, ou une pub, comme tu disais tout à l'heure, c'est des petites économies en ce qui concerne la musique indépendante. Donc, je disais pop music tout à l'heure, pas que la pop c'est plus facile, c'est pas du tout ce que je pense, mais les artistes qui généralement génèrent un cash flow qui est conséquent, c'est pop et variété, et on pense à eux directement. Quoi.
Oui, je dirais que c'est commercial, en tout cas à but commercial.
Oui, c'est ça. Bah,
ce sont devenus quelque part des produits en fait.
Oui, mais au final, j'ai pas l'impression que je suis pas à but commercial quand je fais de la musique non plus, même peut-être. Si c'est la musique indépendante. Tu vois, je suis content en fin de journée si j'ai vendu du merch. Tu vois, c'est con, mais c'est comme ça que je mesure aussi si un concert a bien fonctionné ou pas.
Est-ce que le fameux clivage qui existait peut-être à l'époque de Christophe, Music Underground, commercial, est toujours présent, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il y a c'est plus vraiment d'actualité? Je sais pas.
Je crois que c'est un peu fini la façon de consommer la musique aujourd'hui. Je crois que pour les gens, nous on a encore ça en tête, mais je crois que c'est fini.
Ça me semble aussi, ouais.
Mais de la façon de la consommer, c'est amusant parce que je vois bien chez les gamines, écouter un album, ça n'arrive plus par exemple. C'est des playlists, c'est des enchaînements de titres, mais il y a de moins en moins d'écoutes d'albums. Et on voit aussi, et je ne sais plus quel artiste on parlait, c'était un truc sur Trax, mais qu'il expliquait que c'était un mec qui faisait du hip-hop et que la rémunération de Spotify en fait avait changé sa façon de faire ses morceaux, de faire sa musique, et maintenant qu'il préférait faire 15 morceaux de 1 minute 15 plutôt que des morceaux de longueur classique. Et clairement, quand tu fais des morceaux de 27 minutes, mais t'as pu en écouter 55 dans un groupe de grind.
Ils ont lâché le troisième couplet en fait. Ils font plus que des morceaux à deux couplets. Ah oui. Ça, ils en font plus et ça dure moins longtemps. Donc et c'est payé au stream. Donc en fait, autant faire des morceaux courts.
Mais c'est fou que ça ait changé. Enfin, je veux dire que ça avait même changé la façon de faire de la musique. C'est moi, ça me semble
quand on regarde. Quand on regarde.
Le stream, ça a tout changé. Quoi. Tu vois, vraiment, même de la façon de les rémunérer, de penser sa musique, de commencer le buzz, comment ça existait, etc. C'est fou. Quoi. Là aussi, ça mériterait 250 podcasts.
Parce qu'au final, avant, on calculait à partir de quel moment doit venir le couplet. Le refrain, pardon. Tu vois, donc, il faut pas qu'il vienne à peu près plus de 25 secondes ou 30 secondes, tu vois, histoire qu'il y ait directement une accroche. Maintenant, c'est vrai qu'on parle des morceaux de plus en plus courts.
Ça, c'était lié justement à la radio.
Oui, c'est le média fait
voilà. À un moment donné, c'était formaté, il fallait faire un certain minutage.
Oui, on ne va pas tomber dans le travers classique 21, mais les 45 tours, ça a été, à un moment donné, c'était ce qu'il fallait faire, c'était les 45 tours. Puis ça a été, les Beatles sont venus avec les albums, les trucs concept, tout le monde a fait des albums et on s'est adapté. Puis ça, en fait, l'industrie, à chaque fois, c'est de suivre les bazars ou de mener. Et les artistes, ils essayent de suivre le truc en disant, pour l'instant, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qu'on nous demande, on va faire en fonction d'eux.
Oui, et puis tu as toujours eu les ovnis qui ont été contre-courant.
Et des Wyatt E et des Demon Snip qui te font des morceaux de 12 ou 17 minutes.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau, je veux dire.
C'est pas nouveau, mais pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que ça marque quand même un décalage de votre démarche de création musicale.
Un décalage de volonté, au
final. Oui, d'accord, mais par rapport aux usages actuels et de ce que les plateformes imposent d'une certaine manière.
Ou est-ce que c'est pas une mécompréhension des usages?
Est-ce que vous pensez à tout ça quand vous faites de la musique, Max, quand tu fais des morceaux? Est-ce que tu penses à tout ce qui est peut-être pas au moment où tu tu composes ou tu écris, mais est-ce qu'à un moment ou un autre tu penses à streaming et tout ça ou pas?
Oui, alors je pense que c'est quand même quelque chose qui vient en tête. Après, c'est pas le but, dans mon cas, c'est pas le but principal, quoi. Mais bien sûr, il faut une idée. Quand tu fais une chanson, maintenant, ou tu sors un single, bah, tu penses à tout ce qu'il y a autour, même le côté commercial.
Ça n'a pas changé, t'as vu?
Ouais.
Sortir un single.
Est-ce qu'il y a encore des edits comme avant?
Ouais, il y a des single edits.
Il y a des single edits, ouais.
Quelqu'un veut une bière?
Yes. Moi, je veux bien aussi. Mais sans vouloir couper Max, il y a aussi une donnée qui a changé, c'est que pour aller enregistrer un disque, on ne va plus en studio nécessairement. Et ça réduit des coûts et ça a ouvert aussi plein d'autres possibilités. À la fois, ben, c'est beaucoup plus simple d'enregistrer même plus que chez soi.
C'était une des questions. Est-ce qu'on invite un studio d'enregistrement, etc., dans l'émission et au final, c'est clair que c'est quelque chose qui devient, je ne sais pas dire, de plus en plus superflu. C'est un luxe et ça amène à une qualité aussi. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Mais en termes de production, j'ai l'impression que énormément des choses se font en home studio et on a des petits home studios qui deviennent presque des studios de production. Je vois Max, il a produit chez Pascal Lacroix,
ouais, c'est ça.
Qui à la base s'est monté son propre studio chez lui et puis qui finalement produit quand même pas mal de trucs.
Après, il y a plus de travail derrière. Si tu le fais en home studio, c'est que le producteur doit plus travailler en fait, parce que de base t'auras jamais un enregistrement aussi clair et aussi net qu'en studio, quoi, quand ça sort d'un ampli, que t'as un mic et tout ça.
Ouais.
Du coup ouais, il y a plus de travail qui va dans la prod à ce moment là
ok. Je ne sais pas que tu allais finir ta phrase tout de suite parce que je
pense que tu es en train de boire.
En fait. Et je bois. Moi non plus, j'ai encore un morceau de saucisson à bouche.
Justement, au niveau de la création, ça demande du temps, ça demande aussi un espace de création, un espace de liberté. Et je voudrais aussi qu'on parle un petit peu des résidences d'artistes. Je sais bien qu'on en a organisé quelques-unes au Centre culturel de Marche.
Ah, je crois qu'on a appel de morceau du...
Oui, non, enfin... C'était quoi? C'était Jean-Luc qui demande s'il faut, tu sais, pour pouvoir être invité en résidence, et surtout si la laiterie est confortable, les factures d'énergie prépayées. Il précise que si oui, on lui enlevait les amygdales en 1984 et qu'il est passionné d'accordéon.
Ce qui est pas mal, c'est que ça peut pas être pire.
Qui veut répondre? Christophe, tu fais de la résidence
Alors, on en a fait pendant tout un temps. Par exemple, on a accueilli un groupe de Jaune Orange, hein, Sparkling, groupe allemand... qui est venu en résidence chez nous écrire des morceaux. En contrepartie, ils sont venus jouer à la fête de la musique l'année dernière. Et parce que nous, on envisage l'accueil en résidence comme un échange, quelque part. C'est-à-dire qu'on accueille des artistes, mais en échange, ils laissent, attention, une trace sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, à un moment donné, où il y a un échange entre les gens.
Il y a un
qui
vrai
habitent,
échange avec la population.
Avec la population. Et par exemple, si je me rappelle bien la dernière fête de la musique à Marchin, le concert au Sparkling, c'était vraiment terrible parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, évidemment, et qui se sont dit, ben, c'est quoi ce groupe, d'où il sort? Ben voilà, donc c'est un de nos rôles, une de nos missions, c'est de faire ça. Et beaucoup de gens étaient déçus d'apprendre qu'ils avaient annulé le concert, d'ailleurs, au Cultura, qui devait avoir lieu, je ne sais pas, ce mois-ci, je pense.
Ouais, c'est le 8, il devait jouer.
Voilà. Et je pense qu'il y avait plein de gens de Marchin et du coin, de Wii, qui étaient prêts à venir parce qu'ils ont découvert le truc. Voilà, ça, c'est notre rôle, c'est de pouvoir à la fois aider les artistes à créer dans un cadre particulier, parce que chez nous, c'est un peu particulier. Voilà, c'est mis au vert. On n'a pas de scène, donc c'est pas typique comme type de résidence. C'est pas ce que les groupes recherchent toujours.
Ouais. C'est quoi une résidence typique?
Pas une scène, des éclairages, une sono, un lieu, enfin
un toit.
Un toit, il ne pleut pas, de l'électricité, un frigo où on peut mettre des bières.
Voire même du chauffage.
Voire du chauffage, mais pour l'instant c'est plus compliqué. Mais voilà, mais ça, chaque groupe cherche les lieux de résidence qu'il a envie d'investir. Il y a des gens qui cherchent des lieux atypiques, justement. Ben, Nous, on peut proposer des lieux atypiques. Voilà. Nous, on n'est pas dans...
Et vous proposez un encadrement artistique?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est vraiment...
Là, ce n'est pas notre rôle du tout. Là.
Ouais. Au Cultura, vous faites aussi des résidences?
Donc, en fait, nous, c'est ça, un peu sur base des demandes des artistes qui étaient parfois venus jouer, etc. Et où on s'est rendu compte que parfois, bêtement, un lieu équipé où tu peux voir ce que ta musique donne ou travailler avec un technicien, un ingé son, en dehors des conditions de répète, ça semble être utile. Donc là encore, mais nous on est un peu du genre dispo en dernière minute. Enfin, on a, c'était un des seuls trucs qu'on pouvait faire pendant le Covid, vu qu'on pouvait pas accueillir le public. On se disait qu'on fout avec ce matos, enfin, autant que ça serve à ceux qui ont. Donc on a organisé un peu ça. Puis, mais après, c'est vrai que avec le nombre d'activités qu'on accueille, c'est pas toujours évident d'en plus caser des résidences dans un endroit où il y a des bureaux. Donc, mais ponctuellement, en fonction des demandes et des propositions, on essaye de rendre service. À ceux qui nous le demandent, quoi.
Ouais. Et dans ce cas-là, vous proposez aussi un encadrement ou vous proposez juste
Non, après, c'est vrai que par exemple, on avait fait, je dis, pendant le Covid, les résidences d'été, et là, on s'est rendu compte que peut-être que avoir côté coaching, enfin, moi, je. Moi, ça, je suis pas artiste, j'ai travaillé avec des artistes, mais toujours un peu dans l'idée, chacun a
fait ce qu'il veut. C'est un artiste,
hein. Non, mais je veux dire, pas du tout. Enfin, non, bref. On en reparlera, ça c'est encore notre podcast. Chef du monde de l'art. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment des points de vue. Et effectivement, là on sent que maintenant, justement pour sortir de ce magma de créativité, il semble qu'il faut parfois. Effectivement, c'est un métier, c'est aussi. Donc. Je dis là, on est un peu nous au stage, je dis entre le local de répète et la salle de concert. Et si tout va bien, le groupe qui vient ici en résidence, un jour il va le présenter au public, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de pousser le truc vachement, vachement plus loin. Soit pour avoir un espace pour créer, comme ils le font à Marchin, ou pour vraiment essayer de rôder le show à mort. Mais là, par exemple, c'est ça, on n'est pas très adapté, quoi. On a une scène complètement triangulaire. Mais c'est ça, en live ça marche, mais quand tu veux vraiment un truc professionnel où tu peux gérer ton light, ton son, tout débrouiller ainsi, c'est. Mais voilà, je sais pas, on a accueilli une dizaine et c'est souvent un ou deux jours, quoi, vraiment, pour voir ce que ça donne.
Okay. J'ai une question con pour les musiciens. À quoi sert une résidence d'artiste si vous en avez déjà fait, vous dites à la base, ça va servir à quoi en fait?
En fait, ça dépend, ça peut servir à plein de choses. En fait. Je vous laisse répondre, mais il y a plusieurs.
Mais c'est ça que je voudrais bien savoir en fait.
En fait, ça peut être juste une résidence son, ça peut être une résidence pour tout le live avec le live, ça, mais Seb c'est mieux ça que moi. Mais parfois il y a un coach, parfois il n'y en a pas, c'est juste pour le groupe, pour se tester sur une scène, ça peut être plein de choses.
Oui, résidence lumière, c'est con, mais faire un spectacle avec la personne qui va faire tes lights sur la tournée, c'est toujours utile. Avec la personne qui va faire le son également, puisque je veux dire, le local de répétition, t'es pas dans une. Enfin, t'es dans une pièce quelconque, ça pourrait être ta salle à manger, tu vois, donc, au final. Et puis, d'un point de vue purement artistique, et je pense qu'il y a certains groupes qui en ont besoin, d'autres pas. Moi, dans les groupes dans lesquels je joue, il y en a certains où je vois pas l'intérêt, plus que ça. Artistiquement, je veux dire pour jouer
au niveau de la création
même pas au niveau de la création, plutôt au niveau de la mise en place du live, je veux dire je le ferai très bien dans le local de répète. Et puis j'ai un autre projet où c'est clairement obligatoire parce que le projet n'a jamais été répété pour de vrai, tu vois, parce que tout a été créé les uns à la suite des autres, instruments à la suite des autres, et donc même si tu fais quelques répétitions avant, c'est bien de te lancer une fois sur scène avant de le faire devant des gens, quoi.
Je crois qu'il y a un côté humain aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas plus mal de temps en temps d'être, quand tu es dans un groupe, d'être avec les autres.
Et que plus, avec les autres.
Plus qu'une soirée de répète. Voilà. Ouais. Et d'être, de passer un moment ensemble. Et, moi, j'ai des super souvenirs, mais vraiment des souvenirs impérissables de quelques résidences qu'on a faites. Ce sont des moments que je n'oublierai pas, mais c'est des moments d'humanité, quelque part, au-delà de la musique, en fait. La musique a été, à ce moment-là, un prétexte, quelque part, d'un moment où on est ensemble et il se passe un truc, et puis voilà. Et puis, tant pis si le lendemain on bosse pas, mais l'idée c'est de passer du moment ensemble aussi.
Ça apporte quand même quelque chose au groupe, même si vous ne jouez pas.
Peut-être une cohésion, un truc, ou parfois des engueulades, je veux dire.
Mais ça permet aussi de se rendre compte des fois que ça le fait pas.
De se tester avant de partir 15 jours en tournée.
Au niveau des odeurs, ça peut aider.
c'est un petit peu comme une incentive aussi.
Un team building.
Un team building.
Max, t'en as déjà fait ?
Ouais, j'en ai déjà fait un au Reflector. Mais du coup, moi, c'était plus pour être à l'aise sur scène, rentrer, un peu dans le rôle, quoi. de même moi personnellement en tant que chanteur guitariste quoi, pour m'habituer à être sur scène quoi.
C'était le, la semaine juste avant votre premier concert à Oui avec Eosine.
Ouais. Ouais. Non mais j'en avais fait un pour avec Demon Snip aussi.
Ouais mais celui-là c'était pour Eosine. COVID. Celui-là c'était pour Eosine. Ouais. Ah tu as fait une résidence pour Demon Snip ouais, aussi. Ouais. Ok.
Et du coup aussi c'est pour ouais tester les arrangements live. Parce que du coup, tu peux pas vraiment les tester dans le local de répète, je trouve. Et c'est pour voir si avec la sonne d'une salle, etc., si ça rend bien, quoi.
Donc une résidence d'artiste, c'est souvent une préparation à la tournée. Vous ne faites jamais de résidence pour se mettre 4 jours dans un endroit et essayer de composer des morceaux. Ça arrive aussi ?
Oui, mais comme tout le monde a dit, ça dépend de résidence.
Ça dépend de résidence.
Sont consacrées uniquement à la création, pure et dure, l'écriture de morceaux, et d'autres à... Oui, une scène. Enfin, ça, c'est les lieux, en fait. Il y a un truc qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'effectivement, il y a des trucs vraiment très pro maintenant. Il y a du coaching organisé, on va dire ça comme ça, où tu dois rentrer un dossier pour... Enfin, voilà. Mm. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon truc, mais je peux comprendre qu'il y a une volonté de professionnaliser quand même le secteur, avec les avantages et les inconvénients que ça
induit. Et comment vous avez sélectionné, entre guillemets, les projets, les groupes qui venaient sur base de quels critères vous vous dites bah oui eux la résidence va vraiment servir, ça vaut la peine de les...
Nous, ouais. Pas de critères. Non.
Ils demandent, ils viennent. Non. Ok.
Oui.
Ok, cool.
Et ça leur coûte de l'argent ?
Et c'est pareil partout ou c'est spécifique ?
Ça fait 3 questions en même temps.
Dans le hockey de corps, c'était pas une question, donc ça, c'est déjà ça. Non, je me demandais, est-ce que qui paye, qui comment ça fonctionne financièrement une résidence d'artiste ?
Ça dépend du lieu.
Ouais, ça dépend du pouvoir organisateur entre guillemets. Si c'est le groupe lui-même qui va trouver la salle, enfin tous les cas de figure existent.
Ok, donc il y a pas de.
T'as aussi des organisations qui s'occupent de mettre des artistes en résidence sur demande d'eux-mêmes.
Ok.
Et qui font des sélections sur dossier et qui donc sélectionnent des coachs sur dossier.
C'est la Starac.
Qu'est-ce que t'en penses de ce système-là, toi de...
Moi, j'en ai jamais eu besoin personnellement, mais je veux dire, c'est toujours aussi utile d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur ton travail, même si c'est parfois pas,
pertinent.
Pertinent, j'en sais rien, c'est pertinent ou pas, mais c'est parfois bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui compte pour toi ou dont l'avis compte pour toi. Et puis pour te dire aussi des choses que tu vois pas ou qu'on n'oserait pas te dire quoi, tu vois. Donc j'ai pas de problème avec ça, je mets très peu d'ego là-dedans. Donc okay.
C'est l'une des différences qu'il y a par exemple avec le secteur du théâtre, où là c'est beaucoup plus encadré, c'est beaucoup plus structuré, il y a des metteurs en scène, ce genre de choses. Il y a beaucoup de que dans, j'ai l'impression dans le milieu de la musique, c'est en tout cas la musique légère, c'est ce que nous faisons. Ben il y a pas vraiment tous ces codes là, il y a pas vraiment, ou en tout cas c'est peut-être en train d'apparaître, j'en sais rien, ça je suis peut-être un peu déconnecté, mais je pense pas que ce soit vraiment la norme en tout cas. Ou alors c'est plutôt le producteur à ce moment-là, quand on fait un disque, c'est le producteur qui a plus ce rôle-là de ça, oui, non, ça, plutôt attention à ça. Voilà.
Effectivement, le producteur artistique intervient plus à... Et encore, c'est si le groupe a envie, quoi. S'il a envie de mettre quelques milliers d'euros là-dedans, tu vois. Mais j'ai déjà mis des milliers d'euros dans des gens qui venaient me dire que mon couplet c'était de la merde.
Super.
Mais c'est utile aussi.
Oui, puis, ouais. Il faut pouvoir l'entendre aussi.
Il faut l'entendre, ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je dis, je mets très peu d'ego là-dedans. J'écoute ce qu'on a à me dire. Et puis alors, si je le prends, si je trouve que ça fait sens, je le prends. Et généralement, je le prends.
Il y a des producteurs quand vous enregistrez, mais quand vous êtes en résidence ou en live, en tournée, il n'y a plus ce côté metteur en scène. C'est vous-même qui le faites généralement.
Bah dans notre économie,
c'est pas possible.
Pas un métier qui existe.
Ouais, c'est ça quoi.
Tu parlais d'échanges tantôt pour les résidences. Tu as déjà eu une espèce de constat d'échec, genre cet échange n'a pas lieu ou regretter qu'une résidence était...
Attention, ils vont te demander des noms.
Non. Non, des regrets, non. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas d'attendu
okay.
Au niveau de la qualité ou de la quantité. Il y a juste une volonté de faire en sorte que des gens se croisent, en fait. Okay. Des artistes, des pas artistes, des gens qui viennent de la ville, des gens qui ne sont pas de la ville, des gens qui sont étrangers, des gens qui ne sont pas étrangers.
Au final, il se passe toujours un truc, en fait.
L'idée, c'est qu'il se passe un truc. Voilà, c'est de créer des conditions de rencontre.
Des opportunités de rencontre.
Et de découverte. Parce que c'est important dans actuellement de faire aussi confiance à des gens qui découvrent ou qui programment des choses ou qui sont des prescripteurs.
Des prescripteurs. Et donc, est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau de musique ?
Oui, on peut faire ça. Ouais. On choisit qui ?
Moi, j'aimais bien l'histoire de l'échange. Christophe vient de me toucher au plus profond de mon âme. Donc, je propose qu'on écoute son morceau de Mogwai que je viens de lancer. Donc, si tu pouvais monter un petit peu la piste, ça serait pas mal.
Cher auditeur, dans le but évident de respecter les droits d'auteur, nous avons décidé de retirer la musique de nos épisodes. Nous en sommes fort désolés.
Bah, désolé, sauf pour les albums d'Alain, de Whitney, de moi, certains de toi et tous de Georges.
Okay.
I'm trying to think.